de Londres, seconde partie.
Et voilà, moi je vais vous parler dans cette seconde partie des oubliés de Londres. Les oubliés de Londres, de Londres, hein, et pas de l'ombre, c'est le titre du dernier roman d'Eva Doolan qui vient de sortir aux éditions Liana Levy. Je vous avais d'ailleurs parlé assez récemment, l'année dernière, du précédent qui était sorti en 2019, que j'avais vraiment beaucoup aimé et j'avais découvert, je dirais, une nouvelle auteure. C'était un roman qui s'appelait « Haine pour haine ».
Et donc, je me souviens que c'était une brigade, c'était déjà le deuxième peut-être de cette série.
Alors, la Haine pour haine était effectivement le deuxième de cette série, c'est la brigade de la haine d'ailleurs. Mais
est-ce que celui-là, donc, c'est le troisième de la série?
C'est ce que j'allais te dire. Dans cette nouvelle, dans celui-là, ce nouvel opus, eh bien, elle a abandonné, je pense provisoirement, parce que cette idée de deux flics issus de l'immigration qui actent de crimes racistes est vraiment très intéressante. Mais ici, on va retrouver deux personnages. Mais deux autres personnages, deux femmes, deux prénoms. Ella, Molly, cinq lettres, vous remarquerez, Ella, Molly. Et deux L. Deux L, écrivez-le comme vous l'entendez au milieu des lettres, au milieu de Ella et de Molly. On peut l'entendre dans tous les sens du terme. Donc, Ella, à l'aube de sa vie. Molly, elle, plutôt au crépuscule. Tout commence par une fête dans un immeuble en démolition. Ella appelle au secours son amie Molly. Dans la pièce se trouve un cadavre. Molly ne cherche pas, elle aide Ella à balancer le cadavre.
Avec deux L, c'est plus pratique.
Oui, c'est un peu ça. Ça commence comme ça aussi. Comme Eva Doolan l'écrit plus loin, le monde est trop froid, trop hostile pour tourner le dos à ceux qui s'aiment. Aider donc Ella à dissimuler. Mais quoi d'abord dissimuler un cadavre? Mais est-ce un accident, un meurtre, une légitime défense? On ne sait pas au début du roman. Et la narration démarre. On a d'abord maintenant la voix de Molly, narration au jeu, qui raconte les événements à partir de la fête. Et puis alternativement, avant, on remonte dans la vie d'Ella, quelques jours, quelques mois, jusqu'à 2 ans à peu près. Quand on la rencontre au début du roman, Ella est une militante pure et dure, qui défend les habitants d'un immeuble de Londres, qui sont en train de se faire exproprier pour construire des logements pour les plus riches, même pour les riches. Les anciens devant forcément donc déserter et trouver très loin des conditions décentes.
Gentrification.
Exactement, je vais employer d'ailleurs ce mot en français tout à l'heure. Molly, elle, est une vieille briscarde de la lutte. Elle est devenue son amie, en quelque sorte son mentor. Molly d'ailleurs lui a présenté ses amis, d'autres militants, certains vivant dans une certaine clandestinité, voire une clandestinité certaine. Elle la voit apprendre, elle enregistre, écrit, elle s'enthousiasme, elle profite de l'expérience. Le mot « profite » est lancé. Profiter. N'est-ce pas en fait ce que fait Ella? Petit à petit, on commence à avoir des doutes. Profiter de ses actes, ses nouvelles connaissances, pour se faire connaître, accéder à la notoriété. Et peut-être se cache-t-il d'ailleurs encore d'autres desseins beaucoup moins avouables. Au fur et à mesure des pages, le doute s'insinue dans la tête de Molly et forcément dans la tête des lecteurs par la même occasion.
Militante ou pas militante, c'est bien ça donc le doute?
Oui, parce que Molly, elle, c'est vraiment une pure et dure. Ouais. Vraiment, elle, depuis des années, elle a tout sacrifié. Elle représente donc celle qui a tout sacrifié pour ses idéaux sans jamais rien céder. Mais pour autant, c'est loin d'être une vie exemplaire et surtout pas idyllique. L'auteur met dans ce personnage beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations et donc beaucoup de subtilités. Et c'est vraiment un récit mené de main de maître. Une narration inventive, ses deux voix, ses deux temps, l'un qui avance, l'autre qui recule, pour nous raconter ces deux femmes, mais aussi sa vision du militantisme. Celui incarné par Molly ou bien encore Carole et celui de Ella, plus opportuniste. Mais on reste loin de tout manichéisme, elle dessine habilement le cheminement de chacun, les destins de ceux qui s'engagent, leurs interrogations, leurs doutes, j'ai déjà employé ces mots il n'y a pas longtemps, leurs erreurs aussi. En arrière-plan, l'auteur, Eva Doolan, s'engage aussi, pour dénoncer les promoteurs, les économistes, les politiques, qui traitent les gens comme ils démolissent leurs immeubles. L'auteur anglaise montre donc les dégâts de ce que tu as dit tout à l'heure, Jacques, la gentrification, dans cette capitale britannique, pour que, justement, Il n'y ait pas d'oublier de Londres, d'où le titre du roman
en
français.
Je ne suis même pas sûr que ce mot en anglais se dise comme je l'ai dit.
Non,
sûrement pas d'ailleurs, de toute façon, comme je l'ai dit.
J'ai pensé à ta suite d'ailleurs que c'était un anglicisme, mais finalement pas du tout. Vous me direz, Les Oubliés de Londres, c'est juste un roman. Et l'engagement des Valo-Dolan dans l'écriture, c'est peut-être pas grand-chose. Mais ce problème des rénovations dans les centres-villes a déjà jeté en lointaine périphérie, ghettoisé, des milliers de personnes à travers les grandes villes européennes. Mais un roman, un simple roman, c'est important. Alors, ne loupez pas celui-là. Donc, je rappelle, Eva Dolan, une petite lueur, certes, mais lueur quand même. Quand le roman noir est le témoin des ravages actuels, avec ce talent d'écriture, c'est à ne rater sous aucun prétexte.
Et la traduction, tu l'as pas dit ?
Tout à fait.
Et de Madame Lys Garon.
Lys Garon,
chez Liana Lévy.
Très bonne traduction. Voilà, Jacques, c'est pas souvent que ça arrive dans notre émission. Tu vas, après la musique, nous parler d'un polar jeunesse. Mais d'abord,
Robin McHale, une chanteuse américaine qui chante une chanson super connue qui pourrait être un peu le... Enfin, au moins dans le titre, pourrait être le...
Fil conducteur de notre émission,
voilà.
Mais qui va aussi bien avec la narration d'Eva Dolan.
Exactement, parce que d'autant
qu'en
plus,
donc
le titre de la chanson, c'est Back to Black.
Et donc, avec ces allers-retours entre le présent et la noirceur actuelle et les flashbacks que fait Eva Dolan, ça va très bien.
Voilà, et d'autant que la chanteuse qui a écrit cette chanson, initialement, c'était Amy Winehouse, qui était londonienne, donc et qui pourrait être un personnage d'Eva Dolan par moment. Donc Robin McHale, Back to Black.
Back to her, and I'll go back.
C'était Robin McHale. Et donc, comme je le disais juste avant ce morceau, Jacques, tu vas nous parler d'un roman que l'on appelle un polar jeunesse, mais je prends toujours des précautions quand je parle de polar jeunesse, parce que je crois qu'il peut être lu par bien d'autres.
Oui, en fait, c'est un roman qui est paru dans une collection pour ados ou même pour jeunes adultes, comme on dit maintenant dans le marketing littéraire. Ne partez pas, en fait, parce que c'est beau être dans une collection pour ados, même les adultes moins jeunes, comme nous par exemple, comme vous derrière le haut-parleur, derrière la radio, vous pouvez apprécier tout autant ce roman. L'auteur, c'est Pierre Bordage. Il est connu pour ses romans de science-fiction, mais il a aussi déjà commis quelques polars. Les deux mauvais genres en fait, science-fiction et polar. Il a aussi écrit pour la jeunesse, une trilogie SF, qui a eu beaucoup de succès chez Flammarion, qui édite d'ailleurs ce roman dont on va parler aujourd'hui. Et là, il publie pour la première fois un roman jeunesse noir, un roman noir jeunesse, qui a un très beau titre, Sans mentir.
Mais il faut que tu nous expliques comment s'écrit le sang.
Sang s'écrit comme le sang, donc en fait S-A-N-G. Est-ce que le sang peut mentir? Vous verrez pourquoi. Donc, Odeline, c'est l'héroïne principale. Elle a presque 15 ans. Elle habite une petite ville de province en zone rurale. Ça pourrait être dans l'ouest de la France ou dans le Var, enfin peu importe. Mais il y a pas loin une forêt qui, je ne pourrais pas le dire, mais va avoir une grande importance. Je l'ai dit. Elle est en seconde, elle va au lycée, avec ses copines June et Luan. Tous les matins et tous les soirs, elle prend le bus pour s'y rendre, car son père n'a pas voulu lui offrir le scooter dont elle rêvait. Et comme elle dit, le vélo à leur âge, c'est vraiment la honte. Dans le bus, il y a aussi Gaspard, qui va au même lycée, dans la même classe. Il est secrètement amoureux d'Odeline. Un soir, alors qu'ils arrivent à destination, ils rentrent après l'école, ils remarquent, parce qu'ils se mettent à l'arrière du bus, ils remarquent une grosse voiture noire qui semble suivre le bus. Une drôle de bagnole, dit Luan. Un modèle des années 60, précise Gaspard.
Évidemment, c'est toujours les garçons qui savent les marques des bagnoles.
Cette encyclopédie sur pattes perfusée par les réseaux, précise Pierre Bordage. Il faut préciser aussi que Gaspard, en fait, c'est un surdoué, le geek du lycée. Et il est moqué comme tel, évidemment. En plus, il joue de la guitare. Quelle drôle d'idée.
Ah, il y a une époque où c'était fun.
Oui, mais ça n'a pas l'air d'être
C'est peut-être passé.
Dans cette voiture noire, sombre, et bizarre, il y a un monsieur au visage tout cabossé qui, le lendemain, va resuivre le car et va donner à Odeline une mystérieuse enveloppe avec une photo, un nom et un numéro de téléphone.
Ah, le ça
mystère. Voilà, le mystère. La vie tranquille, presque ennuyeuse d'Odeline et aussi de ses amis va devenir trépidante, dangereuse, aventureuse. C'est quand même mieux que le bahut, il faut bien dire. Ça, de notre époque, c'était vrai aussi. Mais il ne fait jamais bon de plonger au cœur des histoires de famille. Surtout quand cette famille n'est peut-être pas ta vraie famille, ce qui explique le titre du roman
Sans mentir.
Est-ce que le sans ment... Voilà. Un court roman qui... Je ne vais pas vous en raconter plus, évidemment. C'est un court roman qui se lit d'une traite, ou presque. 120 pages d'un vrai polar, d'un vrai roman d'aventure, matinée de thriller. Pas d'enquête à la Poirot, rassurez-vous, mais un véritable roman noir servi par une superbe écriture qui ne prend pas les ados pour des gamins. Vocabulaire recherché, de nombreuses références littéraires et culturelles, et une certaine bonne connaissance des jeunes du XXIe siècle par Pierre Bordage. Bien sûr, vous imaginez que le smartphone va jouer un grand rôle, puisque les jeunes d'aujourd'hui l'ont quasiment greffé à la main droite, enfin au gauche, ils sont gauchers. Et ce smartphone, à quel point il devient inutile quand il n'y a pas de réseau ou plus de batterie ? Dans la forêt dont je parlais tout à l'heure, peut-être.
Mais oui, c'est ça d'habiter en province.
Pierre Bordage, oui, il n'y a pas de truc pour recharger dans les forêts
ah
encore.
Ah bah maintenant, attends, ils ont les chargeurs à induction quand même.
Oui, c'est bon, vrai. Bon, mais là, ils n'en ont pas, là, a priori.
21e siècle.
Pierre Bordage s'amuse aussi de la réciproque. Quand les parents, qui tout d'un coup ne peuvent plus joindre leur progéniture sur cette petite machine, une espèce de babyphone version high-tech pour ados. Puisque j'évoque le high-tech, il y aura aussi, bien sûr, de l'ADN, du hackage.
Avec sans mentir, voilà. On s'en doutait. Hein.
Du hackage, enfin disons, du hackage d'ordinateur. Je ne suis pas sûr que ce soit très beau, hackage, mais enfin, ça fait un peu rugbyman.
Oui, c'est.
Dans son récit, l'auteur raconte, comme avec regret ou nostalgie, la pusillanimité. Je ne sais pas pourquoi j'écris ce mot-là, parce que j'arrive à le dire.
Alors, on y va, allez.
La pusillanimité et la fébrilité, mais aussi l'audace de la jeunesse, qui certes leur fait faire des conneries, peut les mettre en danger, mais qui donne ce piquant à la vie qu'on a parfois du mal à retrouver à l'âge adulte. Ce qui fait du bien, donc, du coup, de lire des romans en jeunesse quand on est un peu plus adulte. Il traite, avec une certaine sobriété, les problèmes de filiation, les rapports parents-enfants. Il pose des questions, sans heureusement apporter de solutions catégoriques, seulement des pistes où chacun pourra piocher sa réponse, ou pas d'ailleurs. On n'a pas forcément de problème parents-enfants, si, quand on est ado. Je parlais de la forêt au début de ma chronique. Il y a une scène dans cette forêt qui est digne d'un roman de Stephen King, d'ailleurs. On en parlait
on en a parlé dans la première partie de l'émission, oui.
Par contre, j'ai l'impression que Pierre Bordage s'est un peu laissé emporter par son enthousiasme, car à un moment, en détaillant les caractéristiques de la voiture, donc qui s'avère être une Lincoln Continental, il dit double moteur V8 et 1500 chevaux, ce qui me semble un peu beaucoup et demande vérification.
Enfin, c'est un détail, c'est une fiction.
Et 1500 chevaux, en fait, ça fait pas vraiment rêver l'ado qui a simplement envie d'un scooter qui en fait 7-8.
Donc, tu as dit que l'auteur était Pierre Bordage, et sur cette magnifique couverture, il y a un bandeau, d'ailleurs, connaît-on vraiment sa famille, mais il y a marqué Pierre Bordage et Annie Jousset.
Oui, c'est plutôt sympa, en fait, de Pierre Bordage de l'avoir mis sur la couverture, parce qu'en
mais
fait...
Qui est cette Annie ce
On n'en sait pas grand-chose, mais c'est une jeune fille de 11 ans, avec laquelle, qui doit être de sa famille ou de ses relations, avec laquelle il a eu plusieurs discussions, et qui lui a en fait inspiré cette intrigue sur des parents qui ne sont pas forcément tes parents.
C'est un grand sujet de la psychologie adolescente.
Voilà. Et on imagine que même si dans le roman elle est un peu plus vieille, que Odeline ressemble beaucoup peut-être à cette Annelise Jousset.
Donc Pierre Bordage et Annelise Jousset pour Sans mentir.
Aux éditions Flammarion.
Et voilà, maintenant c'est la fin de notre émission, et donc on vous dit, de manière traditionnelle, chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt.